Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est le moment du journal de la culture avec Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
On commence évidemment ce journal par les déclarations d'Édouard Philippe concernant le monde culturel. Le Premier ministre était hier devant l'Assemblée nationale.
Et oui Philippe, le Premier ministre a détaillé le plan de fin de confinement. Alors il a évidemment évoqué les événements et lieux culturels. Le monde de la culture l'attendait. Alors revenons sur ces déclarations. Aucun festival pour cet été. Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits avant septembre. Alors même si certains avaient déjà annoncé leur annulation, comme les Vieilles Charrues, les Francopholies, le Main Square, les Eurocéennes, pour les autres, leur futur est désormais très clair. Rock en scène qui a lieu du 29 août au 1er septembre et qui a rassemblé l'an dernier 100 000 spectateurs, va bientôt communiquer. Concernant le Festival de Cannes, qui on le sait se déroulera cette année sous une autre forme, nous n'avons pas encore les détails. Il reste encore des interrogations sur certains festivals, comme celui d'Angoulême par exemple, qui se déroule fin août. Il pourrait quand même avoir lieu, mais sous différentes conditions. Les grands musées et grands établissements resteront fermés. Pareil pour les salles de concert, les salles de cinéma, les théâtres. Aucune date de réouverture annoncée pour le moment. Les intermittents du spectacle, d'ailleurs, alertent de plus en plus sur leur situation. Des pétitions en ligne ont été lancées dans lesquelles ils demandent leur report d'un an de leurs droits ou le renouvellement automatique du statut d'intermittent. Elles rassemblent à ce jour plus de 200 000 signatures. Et les salles des fêtes resteront fermées également jusqu'au 1er juin.
Et le festival d'Angoulême, c'est celui du film francophone de Dominique Besnéard. C'est pas le festival de la BD d'Angoulême. Hélène, il y a quand même des bonnes nouvelles ou pas ?
Alors oui, si on veut, les petits musées, les médiathèques et bibliothèques pourront ouvrir dès le 11 mai en respectant les règles sanitaires. Et Édouard Philippe l'a annoncé, les magasins pourront ouvrir dès le 11 mai aussi, mais dont les disquaires et les librairies qui font partie des secteurs les plus touchés malgré les commandes en ligne de certains ouvrages. En un an, l'activité a baissé de plus de 68%. Les 3200 librairies indépendantes demandent une aide financière de l'État. Et évidemment, toutes ces annonces peuvent changer en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.
Voilà pour ce point complet. Vous nous parlez à présent, Hélène, d'une initiative qui s'intitule « On fait notre cinéma ».
Initiative lancée par le réalisateur Maxime Motte, à qui l'on doit notamment « Comment j'ai rencontré mon père » avec Isabelle Carré et François-Xavier Demaison, ainsi que sa femme Marjorie Meret-Motte. Alors, ils se sont lancés tous les deux dans un vrai défi. Le 9 mai à 18h30, ils vont réaliser un film en direct, ce qui nécessite d'importants moyens techniques. Le titre « Déconfinement », ce que l'on sait du scénario, une famille va vivre ses dernières heures de confiné et le public qui regardera ce film réalisé en temps réel va devoir choisir la fin. Maxime Motte, qui réalisera, recevra le résultat du vote et tournera la fin en direct. 15 partenaires se sont associés à ce projet, comme des cinémas, des attachés de presse, des directeurs de festivals. Le but pour Maxime Motte, prouver que le cinéma est toujours vivant et que l'on peut créer dans ce contexte. Et surtout, en choisissant la fin, le public montre aussi ce qui l'inspire pour cette fin de confinement. Plusieurs informations seront dévoilées au fur et à mesure, avant le 9 mai, sur les sites des cinéma partenaire par exemple. Et comme tout film, Philippe, il y aura de la musique.
Ah oui.
Le réalisateur nous a envoyé hier soir en exclusivité la bande originale du film. Il s'agit d'une reprise du titre de Louis Armstrong, What a Wonderful World, orchestré par Bertrand Berruard et au chant, le réalisateur lui-même, Maxime Motte.
I see trees of green, red roses too. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Toutes les informations sont à retrouver sur www.déconfinement-le-film.art.
Dis donc, il chante bien ce réalisateur, il chante mieux que certains chanteurs. On reste dans le domaine du cinéma, mais cette fois-ci on va parler des Oscars.
Suite à la crise sanitaire, les règles des Oscars pour cette année vont changer, Philippe. Alors habituellement, pour être sélectionné aux Oscars, il faut que les films aient été projetés au moins 7 jours dans les cinémas de Los Angeles. Sauf que depuis la mi-mars, toutes les salles de cinéma sont fermées aux États-Unis. L'Académie des Oscars annonce ce matin que jusqu'à nouvel ordre, et uniquement pour la 93e édition des Oscars qui a lieu le 28 février 2021, les films qui avaient prévu une sortie en salle mais qui ont été d'abord diffusés sur des plateformes de streaming peuvent être qualifiés exception temporaire. Quand les cinémas pourront ouvrir de nouveau, l'Académie décidera une date à laquelle le règlement initial pourra reprendre. Les films projetés dans d'autres cinémas que Los Angeles seront également éligibles.
Et on termine ce journal, Hélène, par un tout nouveau titre pour la chanteuse Yael. Rappelez-vous, elle chantait ça.
Après son dernier disque, la chanteuse revient. Elle sortira un album en septembre prochain. En attendant, le premier single est sorti hier et il s'intitule « Je t'aime encore ». Ce titre est accompagné d'un clip réalisé par Loïc Prigent, journaliste spécialiste de la mode, connu entre autres, vous savez, pour répertorier toutes les petites phrases que l'on peut entendre dans ce milieu.
Il les a rassemblées dans un recueil dont le titre est « J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste ». Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve demain.
Et
nous, dans un instant, nous serons avec la chanteuse Émilie Simon pour son projet musical lancé en plein confinement. Un nouvel album totalement étonnant et justement, on va écouter le premier titre de ce projet. Il est sorti mercredi, il s'appelle « Cette ombre », Émilie Simon sur Europe 1.
Cette ombre venue ici détruit tout. Quand la ville dort, moi je rêve du creux de ton cou. Comme c'est dommage. Qu'est-ce qui nous rapproche ce soir? Qu'est-ce qui nous rapproche ce soir?
Bonjour Émilie Simon. On vient d'entendre votre dernier titre, Cette ombre. Je le coupe, on l'entend pas en entier parce que j'ai tellement envie qu'on vous entende parler. Vous êtes chanteuse, auteur, compositeur, célèbre pour avoir signé la musique du documentaire La Marche de l'Empereur. Vos trois premiers disques, cas unique, ont chacun obtenu une victoire de la musique. Et je précise que vous êtes en plus la personne qui joue des instruments, vous mixez, vous avez votre studio vous-même. Vous n'aviez pas sorti d'album depuis 6 ans, sinon une musique de film dont on va reparler. Là, on est en plein confinement. Vous avez quand même tenu à sortir ce nouveau projet avec une manière assez originale de le sortir. C'est un disque constitué, dit-on, de 4 titres qui vont être dévoilés chaque mercredi depuis la semaine dernière. On vient d'entendre le morceau « Cette ombre ». Vous travaillez, Émilie Simon, sur cet album depuis combien de temps ?
J'ai commencé la première semaine du confinement.
Ouais.
J'avais prévu de sortir, j'ai un album en fait qui était en cours et qui était, j'étais en train de préparer une vidéo que j'ai pas jamais pu tourner parce que tout s'est passé très vite et le tournage a pas pu avoir lieu. Et je me suis retrouvée en studio chez moi, confinée et face à ce qu'on vivait et à tout ce que je ressentais, j'ai eu envie d'écrire. Ces morceaux sont venus à moi, donc j'ai eu envie de les sortir et de me dire je les produis, je les écris, je les produis et je les fais sortir dès que possible. C'est-à-dire, il y a toujours un petit peu de décalage, le temps de préparer une sortie. Mais finalement, c'est assez rapide et ça m'a permis de le faire le plus. L'idée, c'était de rester, d'être le plus connecté avec ce qu'on était en train de vivre.
J'ai complètement oublié de donner le titre de l'album. En fait, les chansons sont en français, mais le titre est en anglais. Et c'est tellement difficile à prononcer pour moi que j'ai demandé à un ami de le dire.
Mars on Earth 2020.
Vous avez reconnu le parfait accent british de Nelson Montfort. Je le traduis, Mars sur la Terre en 2020. Que signifie ce titre ?
Voilà, c'était finalement le côté surréaliste, surtout quand c'est arrivé où on s'est dit mais on a eu moi je sais que j'étais à Paris et j'étais encore en train de d'embrasser les gens et je crois qu'il y a eu tout un laps de temps où on s'est pas du tout rendu compte de l'ampleur de ce qui se passait.
J'ai compris, mais quel rapport entre le coronavirus et la planète Mars ?
Et les Martiens, mais parce que tout d'un coup, ça me faisait penser à ce parallèle avec quelque chose de tellement surréaliste, cet envahisseur qui vient nous attaquer, une pandémie, c'est mondial, et c'est ce côté invasion d'un élément inconnu qui fait peur, qui vient chercher chez les gens toutes ces peurs primales quoi de survie et donc c'était pour moi ça m'a rappelé, mais bien sûr c'est la beauté de finalement utiliser l'art pour parler des choses, quelle que soit la forme d'art.
Alors,
c'est déplacer, dire autrement les choses peut-être les surmonter, les dépasser,
Je l'ai dit, un titre sort chaque mercredi, on a entendu le premier, on va entendre un extrait du titre qui est sorti aujourd'hui, il s'appelle En attendant l'aurore.
Seul dans cette pièce, avec vue sur cour, je rêve d'aventure, je rêve d'amour. Combien de temps faudra-t-il pour quitter cette prison, pour quitter cette ville?
Juste un compliment, c'est quand même complètement dingue d'imaginer que vous faites ça toute seule, Émilie Simon. Je vous cite, seul dans cette pièce avec vue sur cour, je rêve d'aventure, je rêve d'amour. Combien de temps faudra-t-il pour quitter cette prison, pour quitter cette ville ? Vous en êtes où de votre confinement ? Vous êtes où ?
Je suis aux États-Unis.
Ouais.
J'avais prévu de tourner ce clip dont je suis restée ici et je suis enfermée. Je travaille, je fais de la musique et ça c'est la beauté de la chose, c'est d'avoir la création. Ouais.
J'ai une toute petite question prosaïque, question de calendrier. Quand est-ce que l'album
Mars on Earth 2020
va sortir et sous quelle forme va-t-on le retrouver ?
Pour l'instant, il sort en digital, donc il est disponible sur les plateformes. Ouais. Tous les mercredis, un titre vient se rajouter. Et puis, j'ai le projet de le faire en vinyle. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va sortir, mais c'est en cours pour faire un bel objet, parce qu'on a travaillé sur des pochettes avec un artiste qui s'appelle Andrew Levin et qui a travaillé sur ce concept avec moi. Les pochettes sont très belles, et à chaque chanson, c'est accompagné d'une pochette et c'est accompagné d'un petit texte, ouais, qui vient raconter cette histoire.
En 2011, Émilie Simon, vous avez sorti l'album Frankie Knight. Frankie Knight, c'était en fait votre compagnon François Chevalier, avec qui vous avez travaillé sur plusieurs disques. Il est mort de la grippe A, et je rappelle cet épisode pour savoir de quelle manière vous appréhendez cette épidémie de Covid-19 qui, elle aussi, est partie de Chine.
C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des résonances forcément avec, ouais, ce que j'ai pu vivre, et qu'aujourd'hui, même si moi j'ai la chance d'aller bien et que mes proches aillent bien, bien sûr je pense à tous ceux qui sont touchés ou dont un proche est touché, parce que voilà, j'ai vécu quelque chose de très douloureux moi-même, donc. Mais ceci dit, c'est très différent, et ce que je ressens, la façon dont je perçois cette pandémie, c'est aussi un aspect qui n'était pas là à l'époque. C'était le côté mondial, ouais, le côté aussi quelque part une espèce de changement de monde radical, et puis cette compassion aussi générale, où tout d'un coup tout le monde se rend compte que on est tous au même niveau, on est tous aussi vulnérables, on est tous humains, et on est là pour s'apporter du bon, du réconfort, et aider ceux qui en ont besoin, et rester fort.
Merci.
C'est bien.
Merci beaucoup, Émilie Simon. Restez forte. Je rappelle, vous mettez en ligne chaque mercredi un morceau inédit de l'album
Mars on Earth 2020.
Et merci encore à Nelson Montfort. Merci à vous, Émilie Simon. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média qui,
merci,
continue dans un instant. Notre premier indispensable du jour avec Clément Le Saffre. Il va nous présenter Gris à l'espagnol, jeu vidéo surprenant qui vient de franchir la barre du million de téléchargements. À tout de suite.
Culture Média. Philippe Vandel.
Le premier indispensable du jour, c'est maintenant avec Clément Le Saffre. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Clément, vous êtes notre spécialiste jeux vidéo. Vous profitez du confinement déjà pour jouer comme un malade, ce que vous faisiez déjà, mais également pour nous faire découvrir quelques pépites. À quoi joue-t-on avec vous cette semaine ?
Eh bien, on joue à Gris. Alors, ça s'écrit G-R-I-S, gris comme la couleur donc, mais on prononce le S car c'est de l'espagnol. Gris a été créé par Nomada, c'est un petit studio barcelonais. C'est un jeu qui est sorti en 2018. On le trouve sur PC, PS4, Nintendo Switch, iPhone, bref, un peu partout. Ouais. Et il vient tout juste de franchir la barre d'un million de téléchargements. Alors, ça peut paraître peu, par exemple, à côté de FIFA, hein, qui se vend, lui, à 10 millions d'exemplaires chaque année. Mais pour un jeu indépendant fait par une poignée de passionnés, c'est tout simplement énorme et très rare. Alors, je vous propose qu'on se mette dans l'ambiance de Gris sans tarder avec la très belle musique du jeu. Dans Gris, on incarne une femme qui s'appelle Gris, hein, c'est son nom aussi. C'est une jeune femme aux cheveux bleus et vêtue d'une robe noire. Au début, elle se réveille dans un monde étrange au creux de la main d'une immense statue de femme brisée. Il n'y a pas un mot, pas une indication sur son histoire, et ce sera comme ça tout du long du jeu. Il faut se débrouiller. En fait, Gris, c'est un jeu de plateforme en 2D, c'est-à-dire que vous contrôlez le personnage, et il faut le faire avancer vers la droite, lui faire passer les obstacles, résoudre des puzzles. Il y a 5 mondes différents dans Gris, il faut arriver au bout d'un niveau pour passer au suivant. C'est assez basique, c'est quelque chose d'assez classique dans les jeux vidéo. À tel point, eh bien, que c'en est déroutant. Parce que contrairement à d'autres jeux de plateforme du type, on n'a pas de vie dans Gris. Hein, on ne peut pas mourir, il n'y a pas d'ennemis, pas de combat. Moi, j'étais sur mes gardes en permanence par habitude de ce genre de jeu où il y a des pièges partout. Mais il n'y a dans Gris aucune pression d'aucune sorte. Il faut juste progresser à son rythme. C'est vraiment désarmant.
Et là, de ce que vous nous dites, Clément, avec la musique délicieuse qu'on entend, j'imagine que c'est un jeu relaxant, je me trompe?
Non, pas du tout. Hein. C'est une vraie expérience de jouer à Gris. C'est court, environ 5 heures, mais c'est un beau moment hors du temps. Il y a cette musique très douce, effectivement, qu'on entend, mais aussi et surtout, les graphismes. L'héroïne traverse des déserts, des forêts, des sanctuaires sous-marins. C'est très calme, très apaisant. Et les graphismes ont bénéficié d'un soin particulier. Ils ont été réalisés par Conrad Roset. C'est un artiste espagnol qui vient, lui, de l'illustration et de la peinture. Rien à voir avec le jeu vidéo. C'est un adepte de l'aquarelle avec un coup de pinceau très fin et des couleurs pastel. Un style que les développeurs de Gris se sont attelés à transférer, comme l'explique Adrian Cuevas, c'est le directeur technique de Gris.
Au début, nous avons envisagé de dessiner chaque image du jeu sur papier, de la scanner et de la rentrer dans l'ordinateur. Le rendu est très authentique, très réel. D'autres jeux vidéo ont utilisé ce procédé d'ailleurs, mais cela représentait trop de travail pour nous. Nous avons quand même scanné des aquarelles et nous avons choisi minutieusement les pinceaux numériques. L'idée était de donner un effet papier. Ce n'est pas réellement le cas, mais nous avons fait en sorte que le jeu ait l'air dessiné à la main.
Voilà, donc c'est un procédé très particulier et Gris est visuellement magnifique, c'est un vrai régal pour les yeux, mais des jeux de plateforme avec des directions artistiques splendides, il y en a beaucoup, hein. Je vous parlais par exemple de l'excellent Ori and the Will of the Wisp il y a quelques semaines, c'est pas rare.
Ouais, mais alors s'il y en a beaucoup, qu'est-ce qui fait que Gris se distingue alors selon vous ?
Eh bien, Gris porte un message. Le jeu est divisé en 5 niveaux, on l'a dit, hein, à chacun correspond une couleur et un état d'esprit. 5 niveaux qui représentent en fait les 5 étapes du deuil. On comprend que la statue du début du jeu est la mère de Gris et que sa fille a sombré dans la dépression à sa mort. Par exemple, le premier niveau est un monde en ruine, en noir et blanc, qui représente le déni. Ensuite, il y a la colère avec un désert rouge balayé par des tempêtes. Puis viennent la négociation, la dépression et enfin l'acceptation, les 5 étapes du deuil. Donc il y a un lien très fort entre ce cycle du deuil et la façon de jouer, les pouvoirs que l'on obtient au fur et à mesure sont liés à ce processus. Par exemple, pour lutter contre les vents de la colère, notre robe nous entoure et se durcit pour casser les obstacles qui nous menacent. Et puis pour dépasser la négociation, eh bien la cape se transforme en aile qui permet de sauter plus haut, plus loin, etc. Donc c'est très bien fait, le jeu entier est une métaphore du deuil, c'est beau, c'est profondément touchant, il y a de quoi vraiment avoir les larmes aux yeux quand on y joue. Donc je vous incite vraiment à découvrir Gris, surtout en ce moment si particulier où nous sommes nombreux à perdre des proches à cause du coronavirus. Voilà, en ce moment, Gris, c'est pas juste un jeu vidéo, ça peut même être une thérapie pour certains.
Merci beaucoup Clément Le Saff, à bientôt. Dans un instant, on va retrouver notre second indispensable du jour avec Laurent Mariotte.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Second indispensable du jour avec Laurent Mariotte. Bonjour Laurent.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde.
On le sait, on vous retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de 11h à 12h30 sur Europe 1. Mais là, une info, vous avez vu qu'hier, le Premier ministre a annoncé les grandes lignes du futur déconfinement. Les rassemblements de moins de 10 personnes seront bientôt autorisés. Avec les beaux jours qui arrivent, vous avez décidé de vous concentrer sur l'une des plus grandes attentes des Français, l'apéro.
Exactement, alors déjà l'apéro on peut le faire en ce moment, les apéros virtuels à distance, ouais. Ça a explosé hein, sur FaceTime, sur Zoom, ouais. Mais je vous ai préparé un petit panel effectivement du salé, du sucré et du liquide, ah, il y en aura pour tout le monde comme disait Coluche.
Alors allons-y, pour démarrer, avec quoi vous démarrez votre apéro ?
Alors, vous avez parlé avec votre invité de Cuisine Actuelle il y a un instant du carton du pain. Tout le monde fait son pain maison, hein. Ouais. C'est vrai que c'est le record de recherche sur Internet. Eh bien, je vous propose un pain spécial pour l'apéro avec une belle boule de pain que vous aurez faite vous-même à la cocotte ou que vous aurez acheté chez le boulanger. Un beau pain de campagne, une belle miche comme on dit à la campagne. Et on va le rôtir avec du fromage et ça va nous permettre d'aider la filière du fromage aussi qui a des difficultés, les AOP à écouler les stocks. Donc, vous prenez votre belle boule de pain, vous le frottez avec de l'ail, vous le badigeonnez avec de l'huile d'olive, ouais. Et là avec un couteau scie, vous allez l'inciser, mais profondément, hein, en le quadrillant, vous faites des quadrillages de 1 cm de côté, mm-hmm. Pour avoir la forme d'un hérisson en fait, vous voyez, votre
Je
boule
vois.
De pain ouais. Va ressembler à un hérisson, et alors là dans les fentes, vous mettez tous les fromages que vous avez à la maison, du comté, du bleu, de la tomme, ce que vous avez dans le frigo,
ah oui.
Et vous mettez ça au four 25 minutes à 180 degrés, c'est divin. Le fromage va être fondu et au moment de déguster, vous mettez par-dessus, pareil, un condiment que vous aurez fait avec ce que vous avez dans le placard, des tomates séchées, hachées avec des olives, des noix, de la ciboulette, et vous mettez ça par-dessus votre pain et vous tirez chacun votre petit carré de pain avec le fromage qui fond, c'est délicieux.
Alors Laurent, vous aussi, vous n'aimez pas gaspiller les restes. Que faire des restes de poulet ?
Ah ben on va faire des acras de poulet, Philippe. C'est hyper simple. Le poulet rôti, le reste, on le hache avec de l'ail, de l'oignon, du persil. La pâte à beignet, c'est simple. De la farine, de l'eau, du piment, du bicarbonate hein, pour que ça lève et du jus de citron. On mélange tout ça avec la farce de poulet, une cuillère, et on dépose cette cuillère dans de la friture chauffée à 180 degrés. Et quand c'est coloré, quand c'est bronzé, c'est que c'est cuit. Et on n'oublie pas, là, pas le petit tour de moulin à poivre, mais le petit filet de citron vert. Voilà.
D'accord. Et là, je peux vous dire que c'est très très sain, contrairement à certains nuggets qu'on nommera
ah oui.
pas. Ensuite, une pizza
si
verdée. Qu'est-ce que c'est une pizza verdée?
Ben, c'est une pizza de printemps avec des légumes verts, en fait. Tout simplement, vous prenez ce que vous avez chez votre primeur, que vous avez pu vous faire livrer, par exemple. Il y en a, c'est vraiment la saison, là, les petits pois, les asperges vertes, les pois gourmands. Mmh. Une minute de cuisson en eau bouillante, pas plus. Vous étalez votre pâte à pizza, un pesto maison par-dessus cette pâte à pizza. Les légumes disposés. Là, pareil, on met un fromage frais, c'est ce qu'on a dans le frigo.
Ouais.
C'est de la ricotta, c'est du chèvre frais. Et 10 minutes au four à 220 degrés. C'est une pizza qui est parfaite pour l'apéro. On la grignote comme ça du bout des doigts. On peut même en faire un apéro dînatoire si ça se prolonge.
Hein. D'accord. Et si on a encore la dalle, on peut se faire des rillettes de thon ou pas?
Ben oui, oui, vous avez faim, dites donc. Il a faim, Philippe Bollet.
J'ai hyper faim. C'est bientôt... Mais je me lève à 5 heures, j'ai la dalle tout le temps.
Il est levé de bonheur.
Mais ouais.
Il est levé de bonheur. Alors, des rillettes de thon, c'est simple, du fromage blanc, une boîte de thon en conserve ou en bocaux, de la rissa si vous voulez, du jus de citron, de l'huile d'olive, des échalotes. Faut que ce soit relevé, quoi.
Ouais.
Et là, vous les dégustez ces rillettes avec des feuilles de romaine, cette belle laitue craquante.
Alors là, la question la plus importante, tous les gens qui nous écoutent se disent, mais avec ça, on boit quoi?
Ah, et ben, on peut boire, tiens, une belle sangria.
Ouais.
Moi, j'adore ça. Un bon vin rouge ou un rosé. Mmh. Hein, vous avez dit à vos auditeurs que j'avais ouvert les bouteilles de rosé depuis 10 heures.
Ouais.
C'est pas vrai, hein. Je les ouvre seulement maintenant. J'ai toute ma famille qui s'inquiète. Donc, rouge ou rosé.
Ouais.
De l'eau pétillante. Des fraises. Des vrais morceaux de fraises.
Mmh.
Des quartiers d'orange. De la menthe. Des glaçons. On est entre la sangria et la soupe de fruits. Et je trouve ça très, très agréable, moi.
Et c'est très.
Et on peut faire également un crément, Philippe, avec du jus de rhubarbe.
Merci.
De la rhubarbe que vous aurez fait dégorger, c'est super.
Merci beaucoup Laurent Mariotte pour ces conseils. On vous retrouve vendredi dans Culture Média. Nous, on se retrouve demain à 9h30. Nous serons avec Stéphane Bern qui va nous emmener à la découverte du Paris haussmannien. C'est magnifique dans Laissez-vous guider sur France 2. Et puis le comédien Arié Elmaleh pour la série Meurtre A. Mais maintenant, c'est Anne Romanoff et sa bande de fous pour Ça fait du bien.